Non, pas de... Non.
Ok. Alors, je vais vous parler de langues sur Internet, plus précisément de multilinguisme. J'aimerais juste savoir, avant de commencer, qui a lu le guide du voyageur galactique de Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ok. Donc, pour les autres, pour ceux qui ne l'avaient pas lu, le poisson de Babel, qui est dessiné là, sur l'écran, c'est d'une part un artifice littéraire que l'auteur de ce livre a imaginé, parce que dans le livre le guide du voyageur galactique, vous avez un personnage qui part à la découverte de l'univers après la destruction de la Terre, malencontreuse, parce qu'il y a une autoroute intergalactique qui devait passer par là, alors ils ont juste éliminé la Terre. Bref, et puis l'auteur il trouvait quand même un peu bizarre que tout le monde dans l'univers parle anglais. Il trouvait que c'était difficilement défendable. Alors il a inventé ce poisson de Babel, qui est un petit poisson qu'on se met dans l'oreille. Et une fois qu'on se l'est mis dans l'oreille, on est capable de comprendre absolument n'importe quelle langue de l'univers. C'est très 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 pratique. Malheureusement, on n'en a pas encore des poissons de Babel. Donc on en est réduit à traduire, ne pas se comprendre, toutes sortes de choses. Alors, ce qui m'amène à parler de langue, c'est en fait une des caractéristiques d'Internet. Internet, vous avez probablement remarqué que c'est quelque chose qui contracte l'espace. Sur Internet, l'espace n'est plus très important. D'ailleurs, vous avez ici dans cette salle, rassemblée par Internet, une série d'orateurs qui viennent de différents endroits sur la planète, pas tous de Paris. Alors, sur Internet, on est libéré des contraintes géographiques et ça nous permet plus de contacts interculturels. Si on pense que le contact interculturel, c'est une bonne chose, eh bien, le premier obstacle auquel on doit faire face pour accéder à d'autres cultures, ce n'est plus un obstacle spatial ou géographique, donc il n'y a plus besoin de voyager pour être en contact avec des personnes d'autres cultures, mais il faut réussir à communiquer avec. Donc le premier obstacle devient la langue. Je vais quand même voir si ce machin, ça fonctionne avec... On va voir. Alors, sur Internet, en fait, les frontières importantes... Hein ?
C'est assez technique, il faut brancher.
Ah, faut brancher ? Oh là là, c'est là sur le côté.
Tu as de l'USB
J'ai de l'USB. Il demande si j'ai de l'USB sur mon MacBook rose. À votre avis ? Oh là là, oh, bah, si j'avais su. Your keyboard cannot be identified and will not be usable until it is identified. Je vais continuer ?
Bah écoute, fais comme chez toi.
Bon, clique. Il croit que c'est un clavier, c'est juste,
non ? Non, c'est pas... Non.
Il croit que ça... Bon, tant pis, on va continuer
voilà,
comme ça.
Hein ? Voilà.
Après ce petit intermède technique, retour à ce que je vous raconte. Donc sur Internet, les frontières les plus fortes sont linguistiques. Il y a des personnes multilingues qui servent de pont, qui permettent de franchir ces frontières. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment nos outils peuvent nous aider à cela, ou bien comment nos outils justement ne nous aident pas. Personnellement, étant bilingue, je me suis retrouvée assez vite à faire le pont entre ce que j'appelle entre l'anglophonie et la francophonie. C'est entre autres dans cet état d'esprit-là que j'ai initié ce qui est devenu pompage.net, parce que j'ai réalisé qu'il y avait tout un tas d'informations importantes. Et si on pense qualité, la qualité de ce qu'on est capable de faire, ça dépend aussi des informations dont on a à disposition. Donc il y a toutes ces informations à disposition dans le monde anglophone et j'étais tout d'un coup en contact avec des personnes dans le monde francophone qui n'y avaient pas accès à cause de la barrière de la langue. Alors la première chose dont il faut parler, c'est ce qu'on appelle en anglais localization, donc la localisation ou la régionalisation, suivant quel genre de vocabulaire vous choisissez. Et il y a un certain nombre d'erreurs fatales qui sont faites dans ce domaine. Alors, je vais d'abord parler un peu de localisation, parce que c'est la première chose à faire correctement. Et ensuite, on va parler de multilinguisme proprement dit. Donc, les erreurs fatales quand on fait de la localisation, c'est d'abord de se dire que tout le monde parle anglais. Alors, Dieu merci, je pense que dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se disent ça. Dans le monde anglophone, il y en a beaucoup. Je peux vous dire, je rencontre des Américains qui me disent, mais tu sais, quand je suis venue en Europe, mais tout le monde parlait anglais, je n'ai pas eu trop de problèmes à communiquer avec les gens. Tu dis, oui, je suis sûre que quand tu es allée en Europe, toutes les personnes avec qui toi, tu as interagi parlaient anglais. Certainement. Mais vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Si vous voulez qu'une application ou qu'un service ou qu'un site web fonctionne en France, eh ben, il faut que ce soit en français. Et puis, l'autre erreur fatale, c'est de penser que le pays détermine la langue. Je viens de Suisse. La Suisse est un pays qui a 4 langues officielles. L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Je viens de la partie francophone de la Suisse, donc je viens d'une minorité linguistique. Et très souvent, je me retrouve confrontée au fait que les gens pensent qu'en Suisse, on parle allemand. Voilà, donc penser que le pays détermine la langue, c'est ce que j'appelle de l'abus géographique. On prend l'IP de la personne qui se connecte au site, au service, à l'outil, on regarde où c'est, on se dit « Ah, la personne est en Suisse !» Bon, ben voilà, ça veut dire qu'on leur sert de l'allemand. Ça, c'est de la mauvaise régionalisation. Le pays, c'est quand même quelque chose qui demeure important sur Internet. Si vous faites quelque chose qui fait intervenir les lois d'une façon ou d'une autre, si vous envoyez des biens à des gens, ou bien si vous faites quelque chose qui a à voir avec, qui pourrait être censuré d'une façon ou d'une autre, la pornographie par exemple, eh bien c'est important de savoir dans quel pays vos visiteurs sont. Donc pour les lois, c'est très important le pays, mais pour la langue, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres, qu'un élément parmi d'autres. Je vous donne un exemple pour la pornographie. En Autriche, l'âge légal pour acheter de la pornographie, c'est 15 ans. Et c'est aussi l'âge légal pour tourner dans des films pornographiques. Maintenant, vous allez aux États-Unis, quelqu'un de 15 ans dans un film pornographique, ça, c'est ce qu'on appelle « kiddie porn », d'accord ? C'est de la pornographie pédophile. C'est important de savoir dans quel pays les gens y sont. Alors, une série de coupables qui pensent que si on sait dans quel pays la personne est, on sait quelle langue il faut leur parler. Amazon. Quand vous tapez amazon.ch, parce que vous habitez en Suisse, vous êtes redirigé sur amazon.de où tout se passe en allemand. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que je ne vais pas simplement sur amazon.fr ? Ben, c'est parce qu'en allant dans l'Amazon de mon pays, j'ai droit à des frais de livraison gratuits. Okay ? Si je commande sur amazon.fr pour la Suisse, je vais devoir payer les frais de livraison. Par contre, si je m'amuse avec l'allemand, les frais de livraison sont gratuits. Autre coupable, eBay. Quand je vais sur ebay.ch, on me sert un site en allemand. Bien sûr, c'est logique parce que la majorité linguistique en Suisse est germanophone. Oui, j'ai même un petit lien. Regardez si vous arrivez à le voir, où c'est écrit français. Alors, je peux cliquer dessus et voir le site en français. Malheureusement, la fois suivante, quand je tape ebay.ch dans mon navigateur, eh ben, je dois recliquer sur le lien. Parce que bien sûr, eBay ne va pas se rappeler. On pourrait, hein, avec un cookie, c'est pas très compliqué. Mais non, on ne va pas se rappeler que moi, je veux le site en français. Parce que, donc, inutile de préciser que mon allemand est catastrophique. J'ai étudié l'allemand pendant 9 ans à l'école, j'ai détesté ça du début à la fin, j'ai jamais eu l'occasion de l'exercer, surtout que les germanophones en Suisse, ils parlent pas allemand, ils parlent suisse-allemand. D'accord ? Et c'est pas la même chose. Un autre coupable, celui-là, c'est vraiment grave et vraiment embêtant, c'est PayPal. PayPal, c'est très pratique pour faire payer les gens. Par exemple, vous organisez une conférence, vous voulez que les gens ils payent par PayPal, ou bien vous voulez vendre un livre ou des objets. Si vous êtes basé en Suisse, vous avez droit à PayPal en allemand ou en anglais. C'est tout. Et encore, quand vous le prenez en anglais, ce n'est que la première page qui est en anglais, après tout le reste est en allemand. Alors imaginez, si vous êtes en Suisse francophone, ou même si, comme les organisateurs de la conférence LIFT, vous organisez en Suisse un événement qui s'adresse principalement à des anglophones, c'est catastrophique. C'est tellement catastrophique que c'est inutilisable. Google aussi est coupable. J'ai plusieurs histoires d'amis qui, par exemple, se retrouvent à Paris, pour une raison ou pour une autre, qui sont anglophones, et tout d'un coup, leur blog, avec Blogger, eh ben, toute l'interface est en anglais. Non, excusez-moi, en français, justement. Ou bien vous allez au Danemark, et on vous sert des services en danois, parce que vu que vous êtes en train de voyager au Danemark, très certainement, vous comprenez le danois. Alors, ça, c'est quelques conseils que je donne aux gens concernant la localisation. Ça s'adresse principalement aux gens qui fabriquent des outils web, mais c'est aussi valable pour des sites. En gros, en résumé, c'est localiser tôt et futé. Il faut prévoir ça dès le départ. Si vous écrivez des lignes et des lignes et des lignes de code avec l'anglais ou le français, suivant dans quelle langue vous développez, hard-coded dans le code, après le jour où vous voulez faire ça dans une autre langue, il faut aller fouiller, sortir toutes les... J'ai l'habitude de donner cette conférence en anglais, donc je n'ai plus les mots en français. Tous les strings, toutes les chaînes de caractères qui sont en français ou en anglais, et puis les remplacer par des variables. Conseil numéro 2, comme je viens de le démontrer, je l'espère, langue n'est pas égale à pays. Aussi, tenez compte des variétés régionales. Les francophones ici, qui vient de Suisse ? Ah, bonjour les compatriotes ! Qui vient de France ? Bon, ouais, bon, presque tout le monde. Qui vient du Québec ? Jean-Denis, Joseph ! Qui vient de Belgique ? Qui vient d'un autre pays où on parle français ? Tu viens d'un autre pays où on parle français ? Donc, le français français, le français suisse, le français belge, le français québécois. Bon, on arrive tous à se comprendre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on m'a raconté qu'une des guerres d'édition les plus mémorables sur le Wikipédia français, c'était pour la page endive, ou bien chicon, parce qu'en Belgique, c'est un chicon, et en France, c'est une endive. Et pourquoi diable est-ce qu'on utiliserait endive comme titre de la page ? C'est pas parce que les Français sont les plus gros que c'est eux qui doivent définir comment on appelle les choses. Ou pourquoi est-ce qu'on appellerait ça chicon alors que ça n'a aucun sens pour beaucoup d'autres francophones ? Bref, tenez compte des régionalismes. Je vois ça aussi dans WordPress.com, où en Suisse, on est très très tolérant avec les anglicismes. On va écrire blog B-L-O-G. On va dire chatter, C-H-A-D-T-E-R. Si vous nous dites clavardage, on ne comprend absolument pas de quoi il s'agit. Par contre, au Québec, ça va peut-être plus mal passer, en tout cas auprès d'une certaine population, d'utiliser des mots directement importés de l'anglais. Okay? Donc ça, je crois que c'est important d'en tenir compte. Point suivant, impliquer la communauté. Traduire, si vous voulez rendre votre site ou votre service accessible en beaucoup de langues, c'est énormément de travail. Et si vous êtes Google, vous arrivez probablement à avoir des spécialistes de chaque langue dans votre boîte. Si vous n'êtes pas Google, c'est peut-être plus difficile. Donc, impliquez des utilisateurs qui sont des personnes qui ont comme langue maternelle les langues que vous visez. Ayez un linguiste dans l'équipe. Pas juste quelqu'un qui parle deux langues ou trois langues, mais quelqu'un qui comprend un peu comment ça fonctionne les langues. C'est utile. Et puis, dernier point. Point sur lequel je vais m'étaler un petit peu, détection intelligente de la langue utilisateur. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça ? Il y a plusieurs moyens de détecter la langue. Hein. Le plus mauvais que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de regarder dans quel pays la personne elle est. Mais avant ça, on peut faire des choses plus futées. Déjà, si on a un site où les gens s'enregistrent ou bien un outil où les gens ont un compte, ils peuvent indiquer quelle langue ils veulent utiliser dans leur profil. Ça, c'est un premier niveau déjà. Hein, vous pouvez utiliser ça pour décider quelle langue donner, montrer à vos utilisateurs. Ensuite, vous avez les préférences du navigateur. Je vous ai mis une petite saisie d'écran des préférences linguistiques dans Firefox. Vous voyez que j'ai indiqué, en premier, je veux de l'anglais, ensuite, je veux du français, ensuite, je veux de l'allemand, s'il n'y a ni anglais ni français, parce que même si je suis nulle en allemand, je me débrouille quand même, si ma vie en dépend. Puis l'italien, ben, je ne l'ai jamais étudié, mais ayant fait du français, du latin... S'il n'y a rien d'autre, c'est déjà mieux que le serbe. Hein. J'étais en Serbie il y a quelques jours. Et là, alors vraiment, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée quelque part où je ne comprenais rien du tout. Donc, les préférences du navigateur, c'est quelque chose qui a été explicitement choisi par l'utilisateur. Mais ensuite, si vous n'avez pas ça, parce qu'on sait très bien, les gens, ils ne règlent pas les préférences du navigateur. Bon, ils ne les règlent pas parce qu'il n'y a personne qui les utilise aussi. Vous pouvez utiliser la langue du navigateur ou du système d'exploitation. Si quelqu'un arrive sur votre site et que son système d'exploitation est en français, peut-être qu'il sera plus content si vous lui servez une page en français plutôt qu'en anglais. Si son système d'exploitation est en anglais, vous avez quand même un indice qui sait assez d'anglais pour se débrouiller au moins un peu, et donc vous pouvez probablement lui servir une page en anglais si vous n'avez aucune information supplémentaire. Et puis, en dernier recours, si vraiment vous avez accès à rien de tout ça, il faudrait déjà y aller hein, pour que ce soit le cas, on pourrait utiliser la localisation physique. Mais je vous rappelle, la localisation physique, ça ne marche pas dans les pays multilingues, ça ne marche pas pour les gens qui voyagent, ça ne marche pas pour les immigrés. Donc, il y a quand même toute une catégorie de personnes pour qui ça ne marche pas bien. Et ensuite, on arrive à une question encore plus délicate. Est-ce que la langue de l'utilisateur, c'est une langue, N langue ou plusieurs langues? Quelle va être la priorité de ces différentes langues? Quel est le degré de maîtrise de la personne pour ces différentes langues? Ah oui, un petit exemple positif quand même. Je vous ai montré toutes ces horreurs avant. Sur WordPress.com, si vous y allez maintenant, si vous avez réglé vos préférences utilisateurs, vos langues d'utilisateurs dans Firefox, que vous allez sur WordPress.com avec Firefox, eh bien, il va vous proposer d'accéder à la page dans les autres langues que vous avez mis dans votre liste de préférences. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une petite démonstration. J'ai mis italien en premier, français, puis ensuite allemand. Et il me dit, ben voilà, WordPress est aussi disponible en italien, français et deutsch. Ce serait encore mieux si WordPress prenait la première langue et me servait directement le site dans cette langue. Hein. Mais on est sur la bonne route. Donc ça, j'aimerais bien voir encore ce genre de choses. Ok, alors, quelles sont mes langues? Ah non, on va revenir en arrière. Non, au secours. Comment? Ah oui, voilà. Voilà. Donc, avant que je vous montre le truc suivant qui a plein de choses écrites dessus, petit sondage. Qui ici connaît plus qu'une langue? Beaucoup de monde. Qui ici... Si on part du principe que vous seriez, si on imagine que vous seriez capable d'écrire un livre dans votre langue maternelle ou quelque chose d'écrit aussi conséquent qu'un livre, qui ici serait capable d'écrire un livre dans plus qu'une langue? Oh, beaucoup moins de gens. Qui serait capable d'écrire un article dans plus qu'une langue? Ah, il y a déjà plus de monde là. Un billet sur son blog en plus d'une langue? Ah ouais, quasi tout le monde. Qui est capable de comprendre une conférence, une présentation telle que celle-ci, en plus qu'une langue? Aussi beaucoup. Qui pourrait donner une conférence telle que celle-ci, en plus qu'une langue? Moins de gens. Ok, donc vous voyez que ma première question, qui connaît plus qu'une langue, elle n'est pas très très précise. Hein, parce que est-ce que moi je dis que je connais deux langues, le français et l'anglais, hein, je suis également confortable, mais l'allemand? Je veux dire, si je dois lire quelque chose en allemand, je peux. Je peux plus ou moins suivre une conversation en allemand si je n'ai pas trop bu. Je peux avoir une conversation avec le chauffeur de taxi en allemand. Par contre, je ne pourrais jamais donner cette conférence en allemand. Voilà, donc, savoir une langue, la parler, la lire, l'écrire, pouvoir lire un livre, un article, avoir une conversation, écrire une lettre, écrire un livre, faire une présentation... Tout ça, c'est différents niveaux de compétences dans une langue. Et donc, quand on vous propose, par exemple chez Google, de mettre des petites croix pour dire dans quelle langue vous voulez du contenu, et que les petites croix sont oui, non, c'est totalement insuffisant. C'est trop binaire. C'est pas comme ça que les gens... C'est pas comme ça que sont les compétences linguistiques des gens. On a besoin d'un petit peu plus de subtilité dans le monde, là. Alors... Je ne sais pas si c'est très lisible avec l'image derrière. Une petite citation que j'ai trouvée. Je vais vous la lire en anglais, puis ensuite en français. Vague traduction de ma part, je m'excuse d'avance. Hein. Donc, en fait, ce que dit cette citation, en gros, c'est que les hommes sont multilingues. Being human among humans means living in a state of ever incomplete multilingualism. Et en français, être homme parmi les hommes signifie vivre perpétuellement dans un multilinguisme incomplet. J'aime cette idée d'incomplétude, parce que je pense que si vous attrapez quelqu'un dans la rue, cette personne aura au moins quelques notions dans une autre langue que sa langue maternelle. Au minimum, elle aura quelques mots d'anglais, ou elle aura fait 2 ans d'une langue étrangère à l'école. Elles sont là, ces compétences, même si elles ne sont pas utilisées. Les gens qui sont purement monolingues, qui sont complètement perdus si on leur donne une autre langue que leur langue maternelle, sont une minorité. Il y a dans le monde plus de personnes multilingues que monolingues. Ici, j'utilise multilingue au sens large. D'accord ? Vous êtes probablement dans cette salle quasi tous multilingues. OK ? Même si votre anglais est très boiteux, vous en avez probablement un petit peu. Les multilingues... Vrais ou les vrais bilingues, les vrais multilingues, les vrais polyglottes, là, oui, c'est une minorité. Les gens qui sont capables d'écrire un livre aussi bien dans la langue A que dans la langue B, c'est un petit nombre de personnes. Mais ça ne veut pas dire que tous les autres ne sont compétents que dans une langue. Sur Internet, par contre, on a ce que j'appelle des silos monolingues. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, les frontières importantes sur Internet sont linguistiques. Alors, je disais tout à l'heure à Stéphanie que j'aime pas du tout ce slide, il est très, très mal fichu. Mais en gros, le message que j'aimerais essayer de faire passer ici, c'est que même si Internet lui-même est multilingue, cela ne veut pas dire que c'est un espace où on peut être un individu multilingue facilement. Internet, c'est une collection d'espaces monolingues. Il y a des communautés francophones, des communautés germanophones, des communautés anglophones. Ce n'est pas parce que vous avez une communauté multilingue que les gens peuvent être multilingues dedans. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est si on part du constat que les hommes en général maîtrisent plus qu'une langue, à un certain degré, où est leur place sur Internet? Pourquoi est-ce qu'on doit se réduire à se faire rentrer dans des moules monolingues où on est en francophonie, donc on ne parle que français, ou bien on est sur un site allemand, donc on ne parle que allemand? Ça qui m'interpelle. Alors, deux exemples rapides pour montrer ça. WordPress. Si vous prenez cet outil de blog, il est bien traduit, bien localisé, disponible dans toutes sortes de langues, même en serbe. La langue est une propriété au niveau du blog. Donc on part du principe qu'on blogue dans une langue unique. Il n'y a pas de stratégie intégrée à l'outil pour mélanger les langues dans un blog. Donc c'est un outil qui nous invite à faire un blog par langue. Alors, il y a des solutions pour contourner ça. Une que j'ai mise en place d'ailleurs sur mon blog, si vous me lisez, vous l'avez probablement déjà vu, c'est un plugin qui offre des résumés dans l'autre langue. Donc quand j'écris en anglais, je mets un petit résumé en français en haut. Quand j'écris en français, je mets un petit résumé en anglais en haut. Parce que tout traduire. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un blog où ils traduisent tout ce qu'ils écrivent? Levez la main. OK. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un blog dans une langue et un blog dans l'autre langue? Deux blogs séparés. OK. 3-4 personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un blog dans lequel ils écrivent des fois dans une langue, des fois dans l'autre, où ils mélangent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Petite majorité. Mais tout traduire, il n'y avait personne. Traduire, c'est trop de travail. Une des choses que le blog nous a apporté, c'est la possibilité de commencer à écrire au moment où on a une idée, et puis à la fin, appuyer sur publier sans même relire. Si vous ajoutez à cela le vraiment fatigant et pénible travail de tout traduire, oubliez, vous arrêtez de publier. Il y a quelques personnes qui font ça. Hein. Emmanuelle Richard, par exemple, elle fait ça depuis longtemps. Mais il y a peu de gens qui vont avoir cette discipline. Alors, la solution des résumés dans l'autre langue, elle garde le public monolingue et multilingue relativement content. Les multilingues qui ont la bonne combinaison de langues, ils sont très contents, hein, ils s'en fichent. Les monolingues qui ne maîtrisent bien qu'une seule des deux langues, ben au moins ils savent ce qu'ils ratent, on peut dire. Et j'avoue que j'ai même plusieurs personnes américaines qui m'ont dit « Tu sais, en fait, j'aime bien ton blog parce que ça m'oblige à rafraîchir un petit peu mon français. » Donc c'est des gens qui jamais ne liraient un blog en français, mais comme le mien contient de l'anglais et du français, du coup ils essayent de temps en temps, ils essayent de déterrer leurs souvenirs d'école de français. Et puis, ben, ça leur donne un peu de pratique et en fait, ils en sont contents. Donc, et puis, bon, surtout, la personne qui tient le blog, moi, en l'occurrence, est très contente. Un autre exemple, Twitter, un outil de présence. L'interface n'est pas traduite, donc on pourrait imaginer que ça pose un problème d'adoption. Et effectivement, quand j'ai commencé à en parler à mes amis francophones à Lausanne, eh ben, c'était tout en anglais. Même ceux qui savent l'anglais, ils n'ont pas forcément envie de lire des instructions pour un outil peu familier en anglais, d'accord? Ça fait une barrière supplémentaire. J'ai fini par écrire un guide de survie francophone pour Twitter. Mais bon, il y a déjà des communautés non anglophones présentes sur Twitter. Donc, on pourrait se dire, que pourrait faire cet outil? Comment pourrait-il aller plus loin? Ben, peut-être filtrer par langue. Il y a des gens qui n'aiment pas voir des choses dans les langues qu'ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Il n'y a pas de règles. Il faut laisser les gens choisir ça. Donc peut-être filtrer par langue, peut-être détecter la langue. Si Twitter sait que j'écris soit en anglais, soit en français, ce n'est pas très compliqué avec les algorithmes de détection de langue qu'on a aujourd'hui de déterminer dans quelle langue mon message est. Alors, je crois qu'on peut ignorer ça pour le moment. Donc, la localisation, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc, la régionalisation, c'est traduire l'interface dans une autre langue et c'est être monolingue dans diverses langues. Tandis que la multilinguisation, mot très moche, si vous avez une suggestion un peu plus élégante, je suis preneuse, ça s'intéresse, l'idée c'est d'essayer de rendre les espaces un peu plus humains, un peu plus compatibles avec la façon dont nous vivons nos langues. Hein, si vous êtes dans un environnement où il y a des gens qui parlent anglais, des gens qui parlent français, et que vous parlez les deux langues, même un peu, vous allez parler anglais à un moment, ensuite français à un autre. Quand Stéphane et Stéphanie communiquent, Stéphane, il parle en français, Stéphanie, elle parle en anglais. Et ils ont des conversations comme ça, j'ai encore été témoin de ça hier soir. Ça marche très bien. Donc, la multilinguisation, c'est créer des espaces où on peut mélanger les langues, qui gèrent le code switching, alternance codique en français, je préfère code switching. C'est-à-dire quand, si moi je suis en train d'avoir une conversation avec quelqu'un qui parle aussi français et anglais, ben, il y a peut-être des moments où on va peut-être commencer en français, passer en anglais. Peut-être que je vais utiliser une langue pour une phrase ou une expression qui est mieux dans une langue. Hein? Les gens ont tendance à faire ça. Ça s'appelle le code switching. Et différentes combinaisons de langues, parce que là, pour le moment, on a parlé anglais-français, mais Chris parle allemand. Hein? Donc, il y a plein de combinaisons de langues possibles dans le monde multilingue. Alors, ici, une série d'exemples pour vous montrer qu'en fait, on est déjà en train de faire ça sur Internet. Même si Internet est conçu techniquement d'une façon qui encourage les silos monolingues, eh bien, les gens qui vivent sur Internet, les utilisateurs d'Internet, sont déjà en train d'agir leur multilinguisme. Et alors, voici une série d'exemples qui montrent qu'une page web ne signifie pas qu'elle sera en une seule langue. Des situations avec plus qu'une langue sur une page web. Et d'ailleurs, ça fait des années que je m'énerve contre le fait qu'on part du principe qu'une page web est dans une langue. Je vous montrerai un exemple à la fin. Et qu'une personne parle une langue. Ce n'est pas vrai. Alors, bon, tout d'abord, exemple classique, traduction sur une même page, anglais à gauche, italien à droite, même contenu. Une critique en deux langues, c'est sur un site qui s'appelle Quipe. Hein. Quelqu'un a écrit une critique d'un restaurant, il l'a écrit en allemand, et dans le même champ, il l'a écrit aussi. Donc, il a écrit en anglais et en allemand dans le même champ. Twitter. Voici le fil Twitter d'une personne. C'est surtout de l'anglais, mais là en jaune, il y a de l'italien. Encore Twitter. Ça, c'est un instantané de mon fil Twitter, il y a une dizaine de jours, où vous avez un message en anglais, ensuite en français, ensuite en portugais, ensuite en allemand, ensuite en anglais, tout ça sur la même page. Des citations en langue étrangère. Un blogueur suisse roman, francophone, qui cite quelque chose en anglais, il le met en anglais sur son blog. Des gens qui bloguent bilingues. On est quelques-uns ici dans la salle. Voici un exemple, anglais et portugais. Ou bien même pire, c'est un ami finlandais qui m'a envoyé ça, donc dans les archives de son blog. Il écrit en anglais, il cite un livre qu'il est en train de lire en finlandais dans lequel il y a une citation en russe. Trois langues sur la même page. Notre réseau social est multilingue. Ça, c'est un instantané de mon inbox dans Facebook. Vous avez en vert, j'aurais dû choisir d'autres couleurs que vert et bleu, parce que ce n'est pas très visible, mais le premier message est en anglais, les trois suivants sont en français, les trois suivants sont en anglais. C'est tout le temps comme ça. Quand je chatte, j'ai des fenêtres ouvertes en français, des fenêtres ouvertes en anglais. Et vous aussi, probablement. Ici, un chat dans un MMORPG. Alors, vous avez alternance... allemand, anglais, français, anglais, français, anglais, 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 anglais. Et ce qui est intéressant ici, souligner. Donc la personne dit « Salut du monde pour les trois démons » en français. Il a répété ça deux fois. Et il voit qu'il n'y a personne qui le répond. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il répète la même chose en anglais. Laissez un commentaire sur un article. Alors ça, vous avez certainement déjà vu. L'article est en anglais, le commentaire est en français. Vous avez certainement fait l'expérience qu'on est plus compétent dans une langue pour ce qui est des compétences passives, donc comprendre, hein, que ce soit écouter ou lire, que ce qu'on est capable d'exprimer par oral ou par écrit. Donc, c'est assez normal qu'on se retrouve dans des situations où les gens lisent un article en anglais, parce que leur anglais passif est assez bon, mais où ils veulent laisser un commentaire, leur anglais actif n'est pas assez bon, donc ils le laissent en français. Ou ici, en portugais. Commentaire sur une photo Flickr, vous avez de l'italien, de l'anglais, du français. Et puis voici l'exemple que je vous avais promis. Le genre de situation qui m'énerve, qui part du principe que mon blog il est dans une seule langue alors qu'il y a du français et de l'anglais. J'y reviendrai après, mais j'utilise les attributs lang. Donc c'est balisé correctement, hein, pour qui voudrait aller voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon blog et puis je l'ai mis dans Google Translate pour traduire de anglais en français. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il essaye de traduire le texte qui est déjà en français, d'anglais en français. Et puis, il a même le culot de marquer « texte anglais original », là, dans le petit call-out, et puis me montrer mon texte en français. Donc je m'excuse, mais si les logiciels de traduction ne sont pas un petit peu capables de réaliser avec quelle langue ils sont en train de faire leur truc, ça ne va pas du tout. Bon. Ici, un problème qui est, à mon avis, une des raisons principales pour les langues non anglophones pour lesquelles il est important de s'intéresser à cette histoire de multilinguisme. Ça, c'est la situation présente. Donc, vous avez une communauté anglophone en orange, les petites pastilles de couleur de la tête des bons hommes, si vous les voyez, c'est les langues qui parlent, c'est très, très schématique tout ça. Hein. Donc, vous avez plein de gens de la communauté anglophone, et puis vous avez une communauté francophone de gens qui ne parlent pas anglais, parce que ceux qui parlent anglais et français, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont plutôt de la communauté anglophone, s'ils ont des problèmes, si on pense support. Hein. Par exemple, j'ai des problèmes avec WordPress. Ben, moi, je vais aller d'abord de la communauté anglophone, qui est plus grande, plus riche, qui contient les développeurs. Je ne vais pas aller traîner de la communauté francophone WordPress. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ben, ça veut dire que tout ce que moi, je sais, et puis il y a quand même certains domaines où je sais des choses concernant WordPress, ben, en fait, j'apporte ce savoir dans la communauté anglophone. La communauté francophone me perd. Ce que j'appelle la fuite des multilingues. Les multilingues, particulièrement les multilingues anglais, autres langues, ont tendance à graviter autour de l'Internet anglophone et appauvrissent ainsi l'Internet francophone, germanophone. Tandis que si on arrivait à trouver un moyen pour créer une communauté où c'est possible d'écrire à la fois en français et en anglais et de collaborer, alors, avec l'aide d'outils, j'ai des suggestions qui viennent. Hein. Mais créer une communauté qui soit elle-même multilingue. Eh bien, vous auriez des anglophones, vous auriez des francophones et vous auriez des bilingues. De nouveau, là, je suis en train de raisonner avec deux langues, parce qu'après, ça devient compliqué, mais... Donc, le défi multilingue, c'est de créer un espace qui est à la fois adapté aux multilingues, je vous rappelle, c'est la majorité de la population, et adapté aux monolingues. Comment est-ce qu'on fait pour plaire à tout le monde ? Des gens qui ont différentes combinaisons de langues, des gens qui ont différentes combinaisons linguistiques. Ce n'est pas simple, hein. Ce n'est pas pour rien que ça ne se fait pas vraiment pour le moment. Ce n'est pas simple comme problème. La boîte de conserve que je vous ai mis en photo, c'est les boîtes de conserve qu'on achète en Suisse. La Suisse étant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un pays multilingue. Sur la boîte de conserve, je ne sais pas si vous... Non, ce n'est absolument pas lisible, mais... Vous avez en haut écrit « grain de maïs » en français avec la composition. Ensuite, c'est marqué en allemand. Puis ensuite, c'est marqué en italien. Donc, ils ont trouvé une solution pour les boîtes de conserve, hein, pour faire en sorte que ça fonctionne dans un pays multilingue. Je ne dis pas qu'il faut tout traduire partout. Hein. Vraiment pas. Alors, il faut se rappeler aussi qu'il n'y a pas de solution parfaite pour tout le monde. Il va falloir faire des compromis. Donc... Si on veut aller de la direction du multilingue, premièrement, vous avez un problème stratégique, genre quelle langue, qu'est-ce que vous allez traduire, comment vous allez mélanger. Vous avez aussi un problème technique, les technologies impliquées, encodage, traduction, détection et tout ça. Un petit peu plus en détail. Du côté stratégique, Comment est-ce qu'on va mélanger les différentes langues et quelles langues? Qu'est-ce qu'on va traduire? Qu'est-ce qu'on va paraphraser? Comment est-ce que les gens vont définir leurs compétences linguistiques? Comment est-ce que les gens vont préciser ce qu'ils désirent voir? Hein, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne veulent pas voir des langues qu'ils ne maîtrisent pas. Et il y a des gens comme moi que ça ne dérange absolument pas. Qu'est-ce qu'on va montrer aux gens? Comment est-ce qu'on va adapter le processus de publication ou de traduction? Hein, si vous voulez un site en plusieurs langues, les gens qui gèrent des sites bilingues, eh ben, c'est écrit 16 là-dessus. D'accord. J'ai bientôt fini de toute façon. Comment on va adapter le processus de publication pour tenir compte du fait qu'on n'est plus juste en train de publier dans une seule langue? Hein, parce que tous les processus de publication, en général, sont pour une langue. Donc là, il faut repenser les choses complètement. Comment on va gérer le contenu? Quel système de gestion de contenu est-ce qu'on va utiliser? Je vous rappelle, hein, on est plutôt multilingue que monolingue. D'un point de vue technique, alors déjà au niveau design, ça va certainement poser des problèmes sans nom. Surtout si les utilisateurs ne vont pas tous voir la même chose. Hein. Ils vont avoir des préférences linguistiques différentes, ils vont vouloir voir, certains vont vouloir voir ceci, d'autres cela. Donc comment est-ce qu'on va utiliser l'espace? Quelles fonctionnalités est-ce qu'on va avoir et comment est-ce qu'on va intégrer le multilinguisme dans le design fonctionnel? Niveau ergonomie, qu'est-ce qu'on va faire, Dieu? Et puis l'accessibilité, j'y pense même pas. Encodage. Étant une blogueuse francophone qui aime beaucoup jouer avec WordPress, je me suis retrouvée jusqu'au cou dans des histoires d'encodage au moins 5 fois jusqu'à maintenant, des trucs épineux que les anglophones ne voient jamais parce qu'ils n'utilisent pas d'accent, donc ils peuvent avoir tous les conflits d'encodage qu'ils veulent, avec 26 caractères, c'est toujours lisible. Dès que vous mettez des accents, on ne s'en sort plus. Donc vous avez des histoires d'encodage au niveau de la base de données, au niveau du serveur web, de l'installation PHP, si vous avez une application PHP MySQL, au niveau des pages. Donc là, vous avez plein d'endroits où vous allez avoir des problèmes. Dans le HTML, un attribut HTML peut utiliser, c'est lang equals code la langue. Personne ne l'utilise parce que personne n'en tire profit. Si je vais sur Google Translate pourrait regarder ma page pour voir si j'ai utilisé ce genre d'attribut, pour savoir dans quelle langue est mon contenu. Mais ils ne le font pas. Si eux, ils commençaient à le faire, peut-être ça encouragerait les gens à l'utiliser dans leur page. Hreflang, ça indique la langue du site de destination sur un lien. Donc si j'ai un site, si dans un texte en français, je mets un lien vers un site anglais, je pourrais indiquer avec Hreflang dans quelle langue est le site de destination. Tout ce qui tourne autour de la détection automatique de la langue, on a des algorithmes de détection de langue. Ils ne sont pas parfaits, mais comme je disais tout à l'heure pour Twitter, si Twitter sait que je produis du contenu en français et en anglais, diable, c'est quand même pas compliqué de différencier les deux si vous avez une ligne de texte. La traduction automatique. Alors la traduction automatique, on sait tous que ça ne marche pas. Hein? C'est vraiment loin d'être parfait, mais ça peut être une aide. Donnez-moi un texte en allemand. Mettez-moi à côté, en vis-à-vis, la traduction automatique. Ben, je vais pouvoir lire votre texte en allemand, parce que la traduction automatique, elle va peut-être me servir de béquille dans quelques endroits où j'ai de la peine. Elle va me donner le vocabulaire qui me manque. Donc la traduction automatique, elle peut être utile. Il faut juste trouver où elle a sa place. Je vous rappelle de nouveau, hein, on est plutôt multilingue que monolingue. Alors que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait sur le web, on part du principe que les gens, ils sont monolingues. Mais ce n'est pas vrai, les gens, ils sont multilingues. Le mot de la fin. La plupart des gens ont plus d'une langue à leur arc. Donc, faisons un Internet qui soit sympathique pour les gens qui ont plus qu'une corde à leur arc. Voilà. Je vous remercie. Voici les crédits photos à gauche. Mon chat multilingue à droite, parce qu'il est né en Inde et il est arrivé en Suisse, donc il parle en tout cas anglais, français et probablement chat indien. Et mes coordonnées, si jamais vous avez besoin de prendre contact. Merci beaucoup.
Merci.
Et il reste 12 minutes 37 secondes pour les questions. Je vous prierai d'essayer de faire des questions concises. Quand vous faites des questions longues, je me perds et après je ne sais plus quelle est votre question. Donc pensez à être concis de les questions.
Une première grosse remarque sur l'attribut coucou.
Sur la tribu langue, si vous ne voyez pas à quoi ça sert, moi j'utilise une revue d'écran tous les jours et je vous promets que ça me sert. Et qu'il n'y a rien de pire que de lire un texte anglais avec le moteur phonologique français, rien de pire que de lire un texte français avec un moteur phonologique anglais, etc. etc. Donc faites attention, notamment quand vous écrivez votre CMS ou quand vous écrivez des portails, des choses comme ça. Si vous avez du contenu qui peut être en plusieurs langues sur la même page, soyez très très attentif à utiliser ces attributs et à les utiliser à bon escient. Mettez pas un langue égale FR parce que c'est chouette et puis d'un seul coup vous avez plein de contenu anglais au milieu, ou voir votre CMS a écrit langue égale FR une bonne fois pour toutes, ou langue égale EN, ce qui sera plus fréquent. Puis d'un seul coup, vous avez décidé de bloguer entièrement en français. Ça, c'est absolument illisible avec une revue d'écran. Et c'est la première et obligatoire bonne raison de mettre un attribut langue qui soit conforme à votre contenu. Donc vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on a vu l'exemple de WordPress. Je ne suis pas du tout sûr que leurs liens qui disent italiano, français, etc., je ne suis pas sûr qu'ils soient tagués comme il faut en termes de langue. Du coup, j'ai peut-être des chances avec une revue d'écran de même pas pouvoir trouver ma langue. Donc soyez très prudent avec ça, et surtout très attentif et très maniaque. Ça fait triste à dire, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est vital.
Toute petite remarque. On a vu lors de la formation AccessiWeb que donc une personne cherchait la page en anglais d'un site chinois ou une langue asiatique. Pour une personne voyante, c'était un drapeau. Pour une personne non-voyante, c'était un mot chinois. Donc pensez aussi notamment à l'écrire dans le texte alternatif, dans la langue de destination, ou même dans la page, dans la langue de destination. Donc si c'est anglais, mettez English. Si c'est français, mettez français. Si c'est allemand, mettez Deutsch, etc.
Ah oui, j'ai encore un micro. Indiquer les langues avec des drapeaux, ce n'est pas une très bonne idée. Bah déjà parce que moi, je suis suisse, je ne suis pas française. Ok, donc c'est pas, ben je sais depuis le temps que quand je vois un drapeau français, ça veut dire français. Mais si un drapeau suisse, ça veut dire quelle langue? Comme je vous ai dit avant, un pays n'est pas égal langue. Donc le drapeau, c'est pas une très bonne idée pour indiquer quel est le pays. Je m'excuse, je suis un peu à côté de la plaque. Le drapeau, c'est pas une très bonne méthode pour indiquer un lien vers une langue. Utilisez plutôt les codes de langue ou effectivement le nom de la langue dans la langue de destination. Ce que fait bien WordPress, hein, ils disent, vous pouvez voir cette page en italiano, français, deutsch.
Bonjour, Patricia Gallo-Lavallée, Internet donne-moi ce que je veux. Je voudrais savoir si vous avez des solutions pour ce qui est stratégie de référencement, détection automatique d'IP, de langue de navigateur, parce que nos amis, les moteurs de recherche, n'ont pas de préférence de langue.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Donc, si j'ai des solutions côté stratégie de référencement...
Site multilingue.
Comment?
Pour un site multilingue.
Écoutez, je crois que Google considère que mon site est français et anglais. Il me semble qu'il sort dans les résultats en français, qu'il sort aussi des résultats en anglais. Donc, il me semble qu'il doit faire de la détection de langue pour le référencement. Je ne suis pas sûre, hein. Faudrait que je vérifie. Mais je ne sais pas si c'est ça votre question.
Non, ça va au-delà. C'est des vraies problématiques au niveau des FR, des E, machin.
Google a un problème majeur, je trouve. C'est quand on est sur un des Google autres que google.com, brusquement, on peut chercher dans le web, dans une langue ou dans un pays. Donc oui. Vous avez par exemple google.fr, chercher dans le web, chercher... dans le web francophone, je ne sais pas comment c'est écrit exactement, où je cherchais France. Hein. Et la plupart des gens ne savent pas que quand on clique sur France, en fait, Google ne vous servira que du contenu qui provient de serveurs qui sont physiquement identifiés comme étant en France. Hein. Ce qui est complètement stupide, parce que moi, j'ai un blog en français, il est hébergé sur la côte ouest des États-Unis. Vous cliquez sur France, ben, mon contenu disparaît.
Ouais. Et aussi, même avec google.com, suivant dans quel pays vous vous trouvez physiquement, vous allez avoir des résultats différents. Parce que je sais qu'on a fait des tests avec des amis qui sont aux États-Unis, ils disent « Ah, je suis troisième pour tel ou tel mot ». Puis moi, je regarde depuis la Suisse dans google.com en m'étant délogué, en ayant effacé les cookies, tout ce que vous voulez, je n'ai pas le même résultat. Donc, ça montre d'ailleurs à quel point toutes les stratégies de référencement du genre « on veut être troisième pour le mot-clé X, Y, Z » tiennent pas la route. Voilà. Autre question ?
Sébastien Delorme, j'ai là. À votre droite, en haut.
Faites des grands signes. Ah, merci.
C'est plus une réflexion d'ouverture, mais par rapport aux problématiques que peuvent engendrer le multilinguisme sur le design, on peut aller au-delà et peut-être penser aux différences interculturelles.
Oui.
Avec peut-être les problématiques de lecture de gauche à droite, de droite à gauche que ça peut engendrer. Et puis la signification des couleurs ou les codes couleurs dans les pays qui sont différents.
Alors déjà, avant d'en arriver là, moi je vous ai parlé vraiment que du niveau linguistique, mais même quand on fait de la régionalisation, c'est pas juste traduire du contenu dans une autre langue. Il y a des différences culturelles dont il faut tenir compte. Il y a certaines choses qu'il va falloir peut-être plus expliquer, moins expliquer, qu'on va dire d'une certaine façon. Et puis alors quand on crée des communautés, quand on crée des communautés multilingues, c'est justement contact interculturel, ça va amener tout un tas d'autres problèmes parce qu'on va avoir dans un lieu des gens qui ont des us et coutumes différents.
Bonjour, ici.
Merci. Il y a des spots qui m'aveuglent, ça m'aide pas.
Miguel Guilhermé, agence Ogilvy. Récemment, on a sorti un site communautaire qui s'adresse aux jeunes parents rencontrant des difficultés. Sur la plupart la plupart des messages, on se rend compte que ces personnes ont des difficultés à s'exprimer en français et notamment à l'écrit. Et ils s'orientent vers un langage SMS qui, dans la plupart du temps, pose des problèmes de compréhension sur ces sujets. Donc il y a effectivement des problèmes de langue, de traduction français, anglais, etc. Mais on rencontre aussi d'énormes problèmes avec des langues qui naissent, comme le Haxor pour les geeks, ou bien ce langage SMS, qui pour moi est un gros problème de compréhension pour un site. Donc je ne sais pas si vous avez des conseils, une sorte de validation, de modération, pour justement essayer de savoir si un texte est convenablement écrit, ou des petits algos qui pourraient permettre de demander à l'utilisateur de repréciser un peu.
Alors je pense qu'il doit y avoir il doit être possible d'écrire des algorithmes qui permettent de détecter si on est en train de vous écrire en français de Molière ou bien en langage SMS. Ah. Donc à ce moment-là, ça c'est un choix, c'est une décision stratégique. Est-ce que, par exemple, on refuse le formulaire si on détecte que c'est écrit en langage SMS? Si on le refuse tout court, la personne risque de se sentir vexée et puis de repartir. Je sais, pour avoir enseigné à des adolescents, qu'ils prétendent en tout cas qu'il est plus facile de lire le langage SMS que le français normal. Donc là aussi, choc des cultures, je crois que ce n'est pas des décisions simples à prendre. Si les gens qui vous envoient des messages le font dans un français approximatif parce que leur maîtrise du français n'est pas bonne, peut-être là ce qui serait intéressant, c'est effectivement d'ouvrir à ce qu'ils puissent vous écrire dans une autre langue que le français. Mais à ce moment-là, ça demande que vous ayez de votre côté les compétences linguistiques pour répondre, pour en tout cas analyser ces messages et y répondre.
Oui, Michel Ouel, je vais poser une question quand même fondamentale. Je vous rectifier un peu votre discours dans votre propos.
Je m'excuse, je ne vous entends pas très bien.
Mais il marche, hein? Ouais.
Voilà.
Vous avez parlé de Chicon pour les Belges.
Oui.
Et d'endive pour les Français. Alors sachez qu'il y a quand même des Français qui parlent de Chicon.
Alors.
Là, ça va dans votre sens quand même, parce que là, pose le problème linguistique de la définition française aussi du Chicon. Dans le nord de la France, on dit Chicon aussi.
Merci beaucoup pour cette précieuse information. Comme quoi, les régionalismes, ils ne suivent pas non plus les frontières politiques.
Quelqu'un d'autre, oui. Oui, merci. Je voulais avoir un peu ton ressenti sur l'utilisation des wikis dans le terme du multilinguisme. Là, je pense entre autres à Wikipédia, que j'utilise beaucoup, mais aussi à différents wikis de développement que j'ai pu voir, qui offrent assez facilement la possibilité d'avoir une interface dans sa langue maternelle et d'avoir les contenus dans une langue de rédaction et des liens interwiki qui permettent de passer d'une langue à l'autre assez facilement. Est-ce que tu as pu expérimenter ça et est-ce que tu
Alors,
as un sujet
Wikipédia est intéressant parce que justement c'est un lieu où il y a beaucoup de contenu qui est beaucoup traduit, si on peut dire. Il y a beaucoup de choses traduites. D'ailleurs, quand j'ai besoin d'une traduction, j'utilise Wikipédia en général plutôt qu'un dictionnaire parce que ça me donne le contexte. Ce qui manque avec un système comme Wikipédia, hein, qui est en fait plusieurs fois le même contenu en parallèle avec des ponts pour relier les zones équivalentes de contenu, c'est, ben voilà, que je lise en français ou en anglais, ça m'est égal. Donc moi, je voudrais un moyen de lire le meilleur article des deux. Le plus long, peut-être, le plus pertinent, celui qui a été le mieux coté. Et puis, si l'article en français est ridiculement court et que l'article en anglais est ridiculement court, mais qu'il y a un bon article en allemand, ben même si ma maîtrise de l'allemand est très médiocre, j'aimerais peut-être voir l'article en allemand d'abord. Donc, ce serait possible avec des systèmes comme ça. Enfin, ce serait désirable. Maintenant, techniquement, je ne sais pas comment on ferait ça, hein, mais ce serait vraiment désirable qu'il y ait un peu d'intelligence linguistique là-dedans. Et puis que Wikipédia puisse savoir, à quelque part, que j'aime l'anglais, j'aime le français, j'aime un peu moins l'allemand. Et puis, donne-moi ce qui est le mieux, vu mes compétences linguistiques. Je trouve que ce serait bien si on arrivait à quelque chose comme ça.
Bonjour. J'ai une question un peu naïve, ici.
Merci.
Oui. Thibault Le Bourré. Donc,
Vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît.
Vous avez parlé de détecter la langue, par exemple, du système d'exploitation.
Oui.
Là, c'est peut-être plus technique. Il y a peut-être des gens dans la salle qui pourront me répondre.
Pardon, c'est peut-être
un peu technique. J'ai encore jamais vu ça sur Internet. Alors, est-ce que ça existe et sinon, est-ce qu'il y a des gens qui savent si on travaille dessus ou pas?
Je ne sais pas précisément comment ça se fait. Très honnêtement, je n'ai pas regardé. Par contre, je sais qu'il y a des sites où vous pouvez aller. Et puis, on vous dit, vous êtes en train d'utiliser Firefox sous OS 10 en anglais. Donc, si le serveur est capable de connaître ces informations sur moi, on doit pouvoir les capturer d'une façon ou d'une autre et puis les donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait comment faire ça? Il y a des quelqu'un dans la salle qui savent comment faire ça.
Oui, en particulier, il y a un header HTTP qui s'appelle User Agent, dans lequel il y a le nom du navigateur, mais il y a aussi d'autres informations, en général le nom du système d'exploitation, et très souvent aussi la langue du système d'exploitation. Donc la meilleure information reste quand même le Accept Language qui est envoyé en header quand vous configurez votre navigateur pour dire je préfère le français, mais effectivement, en cas de recours, vous pouvez aussi utiliser cette information quand elle est disponible.
Merci.
That's good, but what if you're in an internet cafe in Taiwan and your internet explorer is set up to Cantonese and then it gives you the Cantonese version? Also, if your server farm is in a proxy in the US or goes through Malaysia and the accept languages are the languages of these countries, I don't think you can detect any language. You just offer people to choose it. That's the only option you have.
Alors, je juste essayer de traduire en deux mots ce qu'a dit Chris. Chris a dit, c'est très bien, sauf si vous êtes dans un café internet à Taïwan, où tout va être en chinois. Hein? C'est ça, en gros, que tu as dit. Juste une chose en passant, je dirais, c'est pour ça que c'est important, si vos utilisateurs ont un profil utilisateur, que les réglages de langue dans ce profil utilisateur aient priorité sur tout le reste. Hein? Et puis, bon, si vous êtes à Taïwan dans un café internet, et puis que le site que vous visitez regarde votre adresse IP pour savoir quelle langue vous donnez, ça ne va pas aider beaucoup plus. Vous vouliez répondre quelque chose?
Oui, effectivement, il n'y a pas de solution magique, hein, malheureusement. Il y a toujours un cas dans lequel vous mettrez votre utilisateur dans une situation inconfortable. Le mieux, c'est d'avoir une liste de liens dans la langue des utilisateurs et pas mettre, par exemple, la liste avec Chinese en anglais quand vous voulez dire que j'ai un lien vers mon site en chinois, parce que la plupart des utilisateurs chinois ne pourront pas lire le mot Chinese, pas plus que vous ne pourriez lire le mot anglais ou français en chinois. Avoir les liens vers les versions disponibles dans les différentes langues, en général sur la page d'accueil ou si le site est dynamique, disponible facilement d'accès sur une partie de la page visible. Mais bon, c'est une des richesses d'Internet qu'on veut faire beaucoup de choses. On peut rarement faire les choses parfaitement. Donc, encore une fois, il faut faire les choses en ayant à l'esprit le fait qu'on peut avoir des utilisateurs dans différentes langues qui ont des besoins différents. Ça ne veut pas dire que vous pourrez trouver la solution parfaite, malheureusement. Il n'y a pas...
Merci. Steph? On peut essayer quand même.
On peut essayer. One solution would be a centralized ID, like OpenID, or you have a claim ID and every system can access to this information and get your language from there. Yeah. Then we don't have to understand. Oui. I had 3 laptops stolen, so... Ouais. There's no way I could go for that.
Ce que dit Chris, c'est que donc on a des systèmes centralisés, hein, comme OpenID ou ClaimID, et la langue pourrait être attachée à ça. Puis effectivement, quand j'ai parlé de profil linguistique,
Pour moi, effectivement, idéalement, j'aurais quelque part stocké mes préférences linguistiques, mes compétences linguistiques, et tous les services que j'utiliserais iraient puiser là-dedans pour savoir quelle langue m'a montré. C'est idéalement. Steph?
That's the best solution I've heard so far. Steph, Stephanie Truth, Polyglot. One of the discussions questions we've asked are people asking for, I think, references as well. One of the good sites that have really good articles written for internationalization happens to be at a W3C. There are very short tips and articles on how to use your language tags, how to define locales, how to use HTTP accept language headers, things like that. So check out that site because it will probably help you when you're trying to build a site that caters for multilingualism.
Thank you. Stéphanie dit que sur le site du V3C, il y a en fait beaucoup de ressources concernant les langues et l'internationalisation, comment utiliser les headers HTTP, les différents tags linguistiques. Donc n'hésitez pas à aller là-dedans, fouiller un petit peu pour trouver les informations qui vous manquent.
Voilà, je vous remercie. Éventuellement, si vous avez des questions, ce sera pour la table ronde. On se retrouve dans 10 minutes, c'est-à-dire 11h10 à l'horloge qui est là. Et on